Après que le gouvernement éthiopien accepte le cessez-le-feu, RFI se lance dans une analyse sur ce sujet. L'ancien pouvoir du TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré transformé en groupe rebelle, a lancé une large offensive depuis une semaine au Tigré, cette province du nord de l'Éthiopie. En quelques jours, il a repris une large partie du territoire perdu, ainsi que plusieurs villes clés, dont la capitale régionale Mekele. Depuis novembre, une guerre sanglante oppose le TPLF au pouvoir fédéral d'Addis Abeba, aidé par l'armée érythréenne et des milices d'ethnie Amhara. Mais après les défaites du début, le TPLF a lancé la reconquête, ce qui semble au premier regard à un coup d'État à la tchadienne, avec en toile de fond une armée éthiopienne qui se retire étrangement et soudain de Mekele quelques heures avant que les rebelles arrivent. Pourrait ne pas être finalement ce scénario sur quoi semble travailler depuis des mois l'ex-US autant Israël pour provoquer une très grande guerre en Afrique de l'Est, avec des acteurs comme l'Éthiopie ou l'Érythrée ou encore l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Après l'enlisement total au Yémen et alors que la grande Éthiopie continue à avoir des yeux rivés vers la Chine et la Russie, cette grande guerre, l'Amérique en a besoin. Or, le scénario du Tigré pourrait se retourner contre ses scénaristes. L'entrée des rebelles à Mekele, le retrait de l'armée éthiopienne, comme le dit expert Roland Marchal, chercheur au CNRS et spécialiste de la Corne de l'Afrique, risque de ne pas être qu'un piège. La capitale régionale, les forces loyales aux anciennes autorités du Front de libération du peuple du Tigré, ont repris possession de la ville le 28 juin. La majeure partie des troupes et de l'administration gouvernementale avait évacué les lieux plus tôt dans la journée. La saison des pluies, une fois arrivée, l'armée éthiopienne pourra reprendre la pole de la bête et passer à l'offensive en reprenant Mekele et en neutralisant les rebelles. Mais ce qui frappe dans l'analyse de Roland Marchal, surtout l'accent mis sur l'incapacité de l'État à contrôler la situation, ou ce qui revient au même, l'échec d'Abiy Ahmed à imposer l'autorité étatique et celle de l'armée sur Tigré. Au fait, il semblerait que dans ce presque coup d'État à la tchadienne, le camp US OTAN a trop compté sur l'Érythrée, et le fait sur Mekele provoque l'armée érythréenne et le pousse enfin à intervenir, ce qui est dans l'esprit des scénaristes devrait revenir à impliquer l'armée éthiopienne et finalement à provoquer la grande guerre. Pourtant, RFI n'a pas l'air convaincu. Il se moque presque d'une armée éthiopienne qui, retranchée sur les frontières, suit la situation de près sans réagir. Et s'il s'agissait d'un piège concocté de synergie et de concert entre l'Éthiopie et l'Érythrée? Rien que pour en finir avec une crise qui commence à faire trop longue et à infester toute la partie nord de l'Éthiopie. Après tout, depuis un an, tous les efforts visant à faire éclater la guerre par Tigré interposée entre l'Éthiopie et l'Érythrée ont échoué, et à plus d'une reprise, l'ex-US OTAN s'est vu dans l'obligation de frapper à la porte du Soudan, de l'Égypte, pour les provoquer et les jeter à l'assaut de l'Éthiopie sous prétexte du barrage de la Renaissance. On aimerait bien croire que le gouvernement Abiy Ahmed maîtrise et contrôle parfaitement la situation et qu'il attend son heure avant de prendre royalement dépourvu des stratèges US OTAN qui croient tout comprendre à l'Afrique. Le président Roch Marc-Christian Kaboré procède à un réaménagement de son équipe. Chérif Sy, qui était jusque-là le ministre de la Défense, quitte le gouvernement, ainsi que Ousseini Compaoré, le ministre de la Sécurité. Ils font les frais des dernières attaques à Solane et contre une équipe de la police nationale le 21 juillet dernier. Les populations avaient exprimé leur colère face à la recrudescence et la violence des attaques attribuées au groupe djihadiste, lit-on sur RFI. Le massacre de Solane a-t-il fini par faire reculer l'État burkinabé? On a du mal à comprendre le limogeage d'un ministre de la Défense et d'un ministre de la Sécurité intérieure qui, en peu de temps, ont réussi non seulement à reprendre le contrôle du Nord, cible d'assaut des forces étrangères déguisées en terroristes, mais encore à établir le pont de coopération militaire avec des États voisins dont le Niger. On comprend moins cette marche arrière quand on se rappelle l'engouement avec lequel les forces populaires continuent à protéger les régions cibles. Mais une marche arrière par le limogeage de deux ministres, ne serait pas suffisant vu le langage utilisé par RFI, qui, se référant à la soi-disant opposition, exige davantage de concessions, alors que l'armée burkinabée ne s'est pas mal débrouillée ces derniers jours. Visiblement, le Burkina Faso recourt à un risque de coup d'État. En effet, depuis que Macron a annoncé son intention de faire retirer les forces burkinabées du Sahel en l'attendant venir, la France ne se retire pas du Sahel mais change de rôle. Elle devient désormais le commandement des Américains en Afrique de l'Ouest. Les autorités burkinabées devraient donc être plus vigilantes et ne pas se laisser faire par une pression téléguidée par l'axe US-OTAN. En ces temps de coups d'État militaires, de coups bas, de toutes sortes signés la France, le Gabon d'Ali Bongo a toutes les raisons du monde de se prévenir. Il en est ainsi de ce procès qui requiert 15 ans de prison pour le lieutenant Kélion Dobiang, membre de la garde républicaine, l'unité d'élite et garde prétorienne du président, ainsi que deux autres militaires qui avaient brièvement appelé en direct sur la télévision d'État au soulèvement populaire, qui ont écopé de 15 ans de réclusion criminelle, a précisé à l'AFP le parquet. Le procureur avait requis la prison à vie. 5 gendarmes et un civil co-accusés ont été acquittés. Et cette fermeté face à un projet de coup d'État est d'autant plus justifiée que le Gabon se rapproche de la Chine et qu'il a même l'intention de renforcer ses coopérations avec la Russie. Faisant face ces dernières années à une recrudescence des cas de piraterie au large de ses côtes, le Gabon a officiellement réceptionné le 11 juin dernier un patrouilleur flambant neuf, dit de dernière génération. Il s'agit d'un don de la Chine au Gabon d'Ali Bongo, à inspecter de fond en comble. De plus, le 3 mai dernier, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au palais du bord de mer de Libreville l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon, Ilyas Iskandravov, occasion pour le président de la République de saluer les relations bilatérales entre le Gabon et la Russie et réaffirmer sa volonté d'accentuer la coopération entre les deux pays. Ceci montre que la France a renoué avec ses anciennes méthodes qu'elle liquide un pion, le remplaçant par un autre, et tout ceci dans le strict objectif de plaire aux États-Unis. D'un autre côté, il y a le contre-exemple de la RCA qui, avec l'aide de la Russie, s'est dotée d'une armée forte, propre à contrecarrer des projets de putsch de rébellion, la prise de la capitale, etc. Les prétextes restent nombreux pour tenter de mettre des bâtons dans les roues de Libreville afin de la ramener en tant que colonie française et non en tant que pays indépendant. Pourtant, la croissance économique des pays d'Afrique reste très prometteuse et même beaucoup plus que celle des pays européens. Quoi qu'il en soit, le Gabon est bien décidé à couper le cordon avec la puissance colonialiste française et il continue sa lancée vers les pays du bloc de l'Est comme de plus en plus de pays d'Afrique.
La première édition de l'Académie Huawei pour les technologies de l'information et la communication, un programme destiné à ouvrir aux étudiants béninois une porte vers le monde de la haute technologie, a été officiellement lancé lundi après-midi à Cotonou. Ce programme, qui couvrira 5 universités publiques et privées du Bénin, permettra non seulement de préparer les étudiants béninois pour le marché de l'emploi, mais aussi de fournir au pays des talents en technologie de l'information et de la communication, et le rendre plus compétitif dans ce domaine en Afrique. Le directeur général de Huawei Bénin, Wang Jun, a estimé que ce programme répond aux ambitions du président béninois de positionner le pays comme la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest et de faire des technologies de l'information et de la communication le principal levier de son développement socio-économique. Le Sénégal vient de recevoir son premier navire lui permettant de réceptionner en mer du gaz d'importation liquéfié et de le ramener à l'état gazeux pour produire de l'électricité à moindre coût financier et environnemental. Une unité flottante de stockage et de regazéification est arrivée par la mer dans les eaux sénégalaises le 31 mai, ont annoncé les partenaires du projet. Elle a été construite à Singapour par la joint venture Carmol, entreprise conjointe du Turc Car Power Ship et du japonais Mitsui O-Lines. Il s'agit de la première unité du genre au Sénégal, a indiqué la compagnie d'électricité sénégalaise Senelec. Le Congo envisage de lancer son plan directeur pour le gaz lors de la Semaine africaine de l'énergie 2021. Pour favoriser la diversification de ses ressources énergétiques, le Congo, qui dépend fortement du secteur pétrolier, a prévu de mettre en place de nouvelles directives pour intensifier ses efforts dans le cadre de l'exploitation du gaz naturel. Le ministère des hydrocarbures du Congo a annoncé qu'il lancera un plan directeur pour le gaz à l'occasion de la Semaine africaine de l'énergie qui se déroulera du 9 au 12 novembre 2021 au Cap. Ce plan vise à encourager les investissements dans le secteur gazier du pays et va prendre en compte une stratégie à moyen et long terme pour l'utilisation du gaz naturel. Il faut savoir que le Congo possède environ 284 milliards de pieds cubes de réserves de gaz prouvées selon les données fournies par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'était attendu avec beaucoup d'impatience par le Premier ministre soudanais. Le FMI a commencé à effacer la gigantesque dette de Khartoum. Le Soudan est le pays le plus endetté d'Afrique. Le FMI va effacer 90% de la dette ces trois prochaines années, soit 50 milliards de dollars. Cela faisait 2 ans que le Premier ministre Abdallah Hamdouk travaillait pour arriver à ce résultat. 2 ans de négociations avec les créanciers et avec le FMI. 2 ans aussi de réformes douloureuses pour la population, comme l'arrêt de certaines subventions sur le pain ou l'essence, qui a provoqué un fort mécontentement. Khartoum traînait une dette de près de 60 milliards de dollars qui limitait bien entendu à sa capacité à emprunter pour financer son économie. Désormais, et d'ici à 3 ans, ce poids considérable aura disparu à 90%.